La carte blanche, Africa Radio.
Et avant de débattre donc du désert médical qui laisse plus de 10% de Français sans accès aux soins, notre invité carte blanche d'abord. Et il s'agit ce vendredi de Kerwin Maïzo. Monsieur Maïzo, bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste et analyste politique ici en France. Premier sujet de cette semaine, les violentes manifestations enregistrées au Sénégal dans le cadre de l'affaire de l'opposant Ousmane Sonko. Comment avez-vous vécu toute cette mobilisation de loin ?
De loin, j'ai été étonné par la jeunesse sénégalaise. Je me suis dit, nous sommes dans un continent, l'Afrique, où il y a beaucoup de problèmes. Et on reproche à la jeunesse africaine d'être léthargique. C'est une jeunesse qui ne se bouge pas. C'est une jeunesse qui attend que la manne lui tombe du ciel. C'est une jeunesse qui se complaint et c'est une jeunesse qui passe son temps à se plaindre. Là, on a vu les jeunes défendre leurs droits au travail, leurs droits à la démocratie, leur droit à la liberté d'expression et défendre un député qui est jeune comme eux, qui peut-être, on ne sait pas, hein, il est présumé avoir perpétré un acte de viol. Hein, mais jusqu'à preuve du contraire, conformément.
De viol sur une, avec menace sur une masseuse d'un institut de beauté.
Oui, bon, il y a la présomption d'innocence, mais
absolument.
En filigrane, au-delà de cette affaire, ce que l'on voit, c'est une jeunesse qui donne l'exemple à toute la jeunesse africaine et qui dit non.
Qui se mobilise pour réclamer ses droits, dites-vous.
Oui, qui se mobilise pour réclamer ses droits. Et puis, on sait que nous sommes dans un environnement de la pandémie à la COVID-19, et qu'il y a un couvre-feu qui met les jeunes dans une situation vraiment délétère. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est ces messages que « enough is enough », maintenant, la jeunesse peut dire non.
Merci.
Ça fait 10 ans qu'au Sénégal, on n'a jamais vu des manifestations d'une telle ampleur qui ont abouti,
oui,
par exemple, à la fermeture de tous les systèmes scolaires et universitaires pendant
une semaine. Oui, voilà. Il y a aussi des morts, hein, une dizaine de morts selon l'opposition, 5 selon des sources officielles. Deuxième sujet, peut-être signaler avant de passer au deuxième sujet, M. Maïzo, que demain samedi, c'est aussi une autre journée à haut risque puisque l'opposition appelle de nouveau à manifester. Deuxième sujet, la journée internationale pour les droits de femmes célébrée lundi. Quel a été votre message? Comment avez-vous vécu cette journée? Qu'est-ce que vous avez fait peut-être pour votre partenaire?
Ce que je fais d'abord pour toutes les femmes d'Afrique, j'ai une chaîne YouTube qui est très suivie. J'avais fait une émission spéciale là-dessus pour que les gens ne confondent pas, comme c'est souvent l'amalgame qui est fait, la fête de la femme et une journée féministe des revendications des droits de la femme. Parce qu'il est inadmissible que plus de la moitié de l'humanité soit ostracisée par une culture à la fois phallocratique et paternaliste.
Vu d'Afrique, c'est vrai qu'il y a aussi la défense des droits, mais il y a aussi ce côté festif qui ne manque pas.
Oui, le côté festif, c'est généralement... je ne dirais pas inversion des rôles, hein, on l'a toujours fait tous les jours. Mais ces jours-là, on dit, reposez-vous, on s'occupe de tout. Hein, on va faire
ce que vous avez fait, alors.
La vaisselle. En fait, reposez-vous, faites vos hobbies, regardez la télé, lisez un roman comme on ne peut pas sortir, mais pensons à la situation de la moitié de l'humanité, parce que cette moitié de l'humanité, c'est nos filles, c'est nos mères, nos sœurs, et il est inadmissible qu'à travail égal, qu'il n'y ait pas de salaire égal.
Merci.
Il est inadmissible que l'on puisse dire « la science, c'est pour les garçons, les filles, allez faire une filière où vous allez finir à
les cours de cuisine, assistante sociale ou assistante maternelle. » D'accord,
voilà.
C'est fini, merci. Dernier sujet très rapidement, Kerwin Maïzo, c'est l'élection vendredi dans des conditions plutôt surprenantes du nouveau président de la Confédération africaine de football.
Quelle que soit la compétence de M. Motsepe, quelle que soit sa compétence, quelle que soit sa fortune, je suis gêné par l'immixtion de la FIFA dans les affaires du football africain, ce que la FIFA ne fait pas. en Amérique, surtout en Amérique latine, continent du football, c'est que la FIFA ne fait pas en Asie. Donc, c'est
Monsieur Maïzos, si je peux me permettre, on a l'habitude de dire, d'entendre dire que la chèvre broute là où elle est attachée. Vous connaissez ce parabole, ce proverbe africain. Donc, si la FIFA le fait en Afrique, c'est peut-être parce qu'il y a un terrain propice.
Ben, il y a un terrain propice parce que certains dirigeants africains, dans le milieu du foot, hein, comme de la politique, sont ceux que j'appelle des dirigeants buana-buana.
Traduisez, oui, s'il vous plaît.
Ben, j'ai dit buana buana, soyez-le. Quelqu'un qui est habitué à dire oui, patron, ave, patron. Patron, vous avez raison. Donc, je dis, c'est des dirigeants.
Dans ce cas, qui faut-il s'en prendre si les 54 fédérations, au lieu de décider de s'opposer, ont accepté l'immixtion de la FIFA avec un vote par acclamation?
Lorsqu'on accepte l'argent sale venu d'ailleurs, et on devient permissif à toutes les influences. Donc, la compétence de M. Motsepe n'est pas remise en cause, mais il faudrait couper les cordons ombilicaux avec la FIFA. Il est temps que l'Afrique du football, se fasse respecter.
Merci.
Nous sommes parmi les plus grands pourvoyeurs des joueurs de foot dans des meilleurs championnats du monde. Nous voulons du respect.
Merci beaucoup, Kerwin Maïzo, journaliste, analyste politique ici en France. Vous étiez notre invité carte blanche de ce vendredi.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous parlons du désert médical qui en 2019 touchait 11,1% de personnes. Et c'est avec nos trois invités qui sont déjà en ligne. Il s'agit du docteur Emmanuel Debos, président du réseau des groupements régionaux d'observation de la grippe. Docteur, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous avons également le plaisir d'accueillir Aïssatou Dia, médecin, praticienne, consultante en service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichard. Docteur Dia, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Médar Koudébi. Monsieur Koudébi, vous êtes là?
Oui, je suis en ligne.
Merci d'être avec nous. Président de l'ONG française Bénin Diaspora Assistance, qui œuvre aussi dans la prévention des risques et des épidémies. Je rappelle que vous êtes tous en ligne de Paris. Je vais peut-être commencer avec vous, docteur Aïssatou Dia. Parmi les principales causes de ce qu'on appelle le désert médical, on cite très souvent la mauvaise répartition de l'offre des soins sur le territoire, qui elle-même découle peut-être d'une mauvaise politique mise en place depuis des années, non?
Mais, moi, je ne dirais pas comme ça, hein, que c'est une mauvaise politique. Mais moi, pour moi, vu mon expérience pour le suivi des patients démunis, notamment immigrés en France, moi, pour moi, c'est le numéro un vraiment qui est le numéro un pour les prises en charge médico-sociales, la France. Donc, comparativement à d'autres pays, à d'autres continents. Donc, les patients sont déjà, ceux qui ont des pathologies qui sont sur liste avec une prise en charge à 100%, les patients ont déjà cette aide médicale pour les aider quand même à ne pas financer et avoir gratuitement ces médicaments. Et aussi, j'ai travaillé en infectieux près de 30 ans, de novembre 86 à décembre 2016. Donc, ça fait 30 ans environ en infectieux. Donc ma file active de suivi, de consultation au long cours est plus de 80%. Et notamment des immigrés.
D'accord.
Ces immigrés-là, il est arrivé que des patients ont des ruptures de traitement. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le traitement en question, mais c'est parce qu'ils sont chez des gens, ils ont peur de sortir leur traitement. Donc, il y a eu l'ACT. J'ai travaillé 15 ans et demi aussi à Emmaüs en tant que médecin coordinateur en ACT. Ça veut dire appartement de coordination thérapeutique. Donc, à l'EMAI, donc 15 ans et demi, j'ai eu cette expérience aussi. Pour moi, vraiment, moi, je dirais le contraire. La France est le numéro un. de tous les continents, sur l'Europe et de tout, sur tous les continents, le numéro un, d'une prise en charge parfaite, médico-sociale parfaite.
Docteur, des patients. Docteur voilà. Diassi, si je peux me permettre, là, vous parlez des difficultés hein, d'accès aux soins des immigrés qui sont. Voilà. Et là, nous parlons principalement, c'est aussi un autre visage hein, de cette problématique, mais nous parlons ce soir du fait qu'il y a des localités qui n'ont pas suffisamment de médecins généralistes, qui n'ont pas de pharmacie de proximité, vraiment du phénomène du désert médical. Et je vais peut-être donner la parole au docteur Debost. Si il faut faire un diagnostic aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le fait que cette inégalité s'accentue de plus en plus? Pourquoi il y a, dans certaines localités, moins d'hôpitaux, moins de pharmacies que dans d'autres?
Bien, je crois que, malheureusement, la liberté d'installation des professionnels de santé est en cause fortement parce que les professionnels choisissent les zones les plus faciles.
Les zones urbaines.
Là où... Alors, certaines zones urbaines, parce qu'il faut savoir qu'en zone urbaine, il y a certains quartiers qui n'ont pas de médecins, parce que c'est des quartiers un peu difficiles. Et le fait de pouvoir s'installer là où on veut et pris en charge par la société pose un problème. Et je crois qu'il faut revenir et peut-être contraindre un peu sur certains territoires ruraux éloignés et certaines zones urbaines défavorisées l'installation des professionnels de santé.
On va venir aux solutions tout à l'heure, docteur Debos. On essaye d'abord de comprendre d'où vient cette situation, comment cela a évolué au point qu'on en est aujourd'hui à une situation qu'on va dire alarmante, parce que je parlais des chiffres de 2019, quand même, on parle d'un chiffre qui augmente. En 2019, 11% des personnes qui souffrent de ce problème de désert médical, contre 8% en 2016.
Bien, il faut reconnaître que la démographie médicale a évolué, que les médecins ont vieilli, les numerus clausus imposés à la faculté de médecine n'a pas formé probablement assez de médecins aujourd'hui, et on se trouve face à ce constat conjugué au fait d'avoir effectivement une liberté d'installation et donc des médecins qui vont s'installer dans certaines zones et pas dans d'autres. Et je crois que c'est ces deux facteurs qui sont responsables de la situation actuelle de certains déserts médicaux, ruraux comme urbains.
D'accord. Urbains dus à certains quartiers dits sensibles où les médecins ne veulent pas s'installer, malgré la densité importante de la population, dites-vous. Monsieur Médard Koudébi, vous êtes là? Allô, Monsieur Koudébi?
Oui, Madame le journaliste.
Voilà. Dites-nous, quel est votre diagnostic de cette situation?
Et je remercie les deux médecins qui sont sur le plateau. Et déjà, ainsi que vos auditeurs, le problème des déserts médicaux est dû à quatre choses que nous avons relevées au fil des années. Et la première des choses, les points les plus reculés, par exemple, comme Isola 2000, plusieurs localités des Pyrénées-Atlantiques, ou même dans les zones de Tours, par exemple, Azay-le-Rideau, et les points les plus reculés, où il n'y a pas beaucoup de clientèle, les médecins, cette liberté d'installation fait que les médecins ont évité ces zones à l'intérieur du pays. Quand au banlieue, les zones comme le 95, le 91, le 93, les zones où il y a plus de violence, à cause des violences et les agressions dans les cabinets, et les médecins, beaucoup de médecins aussi, comme l'a dit les autres confrères, et refusent de s'installer dans ces zones-là par mesure d'insécurité. Pour leur refus de s'installer là, ce n'est pas par manque de clientèle, mais c'est par manque de sécurité. Et la troisième chose que nous avons aussi constatée, c'est que beaucoup de médecins ayant l'âge d'aller à la retraite et n'ont pas trouvé de remplaçants pour reprendre leur cabinet. Beaucoup de départs des médecins à l'étranger, dans les pays où ils se sentent plus payés qu'en France, et a été aussi le responsable de l'absence de relève et de ceux qui décident d'aller à la retraite. Et le quatrième point est dû à la situation financière d'un certain nombre de personnes, comme l'a dit notre premier auditeur
Docteur Aïssa Touba.
Docteur Aïssa Touba, des gens, par exemple, qui sont hébergés, qui ont un traitement, par exemple, de près de 24 ou 17 molécules à prendre dans la matinée, ne pourront pas sortir toute la cargaison ou n'ayant pas une prise en charge à 100% au titre des ALD, des affections à longue durée, ou au titre du CMU, et n'arrivent pas aussi à se soigner. Et voilà l'enquête que nous, au niveau de notre ONG, et nous avons eu à faire les 5 dernières années et à travers tout le territoire français.
Merci, M. Koudébi. Alors, docteur Dia, une conjonction de facteurs qui font que voilà, l'accès aux soins est difficile dans certaines régions et une situation qui laisse les maires désemparés. Mais quelles sont les conséquences que cela a pour vous qui travaillez dans certaines zones sensibles? Vous parlez de centre Emmaüs tout à l'heure. Quelles sont les conséquences que subissent les populations au regard de cette réalité?
Comme il a dit le précédent, en fait, il y a des lieux qui sont créés comme des lieux, pas tout à fait une ville ou un village ou un quartier. Si c'est créé, on regroupe des gens pour regrouper des catégories de gens. Évidemment, ces lieux n'encouragent pas les médecins d'aller s'installer là. Donc, ils cherchent toujours à aller où, quand même, la première chose, la sécurité, là où il y a la sécurité. Donc, ça peut diminuer aussi qu'il y ait des médecins qui s'installent dans ces lieux-là, diminuer aussi les médecins qui... Et puis, il y a aussi, comme il a dit aussi, les gens qui vont à la retraite. Quand ils vont à la retraite, ils cherchent une meilleure vie ailleurs que d'aller se mettre dans des situations d'insécurité.
Voilà. Docteur, oui, bon, je me rappelle qu'hier...
J'étais médecin hospitalier, donc voilà, tous ces suivis-là, les consultations et tout, c'est vraiment... moi, j'ai toujours conseillé aux gens d'aller à l'hôpital.
Mais quand vous avez des localités où il est difficile d'avoir un médecin, finalement, quelle est la conséquence, quel est l'impact sur les personnes qui habitent dans ces régions-là? Je parle par exemple des quartiers sensibles. Est-ce que finalement ils renoncent d'aller à l'hôpital, l'automédication, qu'est-ce qu'ils font?
Imaginez des gens qui chutent quelque part pour venir chercher un bien-être, qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de logement, et la maladie leur tombe dessus. Ils ne savent pas où se tourner. Voilà, vous imaginez ces gens dans ces situations-là, ça fait qu'ils n'ont pas de suivi, et même s'ils ont un traitement, ils ne peuvent pas le suivre parce qu'ils ne sont pas chez eux. Donc, ils se cachent pour prendre leurs médicaments, ou il faut trouver les moyens de se déplacer pour aller chez le médecin ou pour aller ne serait-ce qu'à l'hôpital. L'hôpital, je sais que là, arrivé là, on soigne d'abord les patients avant de demander la prise en charge. Et il y a une assistance sociale, mais vraiment, qui est dans tous les services, dans tous les hôpitaux, pour aider ces gens-là à les retrouver, avoir l'équilibre, avoir aussi les moyens de rester en France pour se soigner, et même avoir un logement, d'où l'intermédiaire, la CT, qui aussi les prennent en charge, qui les aident dans les démarches, aussi bien au niveau de la préfecture, au niveau aussi de logement, et leur trouver des stages, leur trouver des stages rémunérés, leur trouver du travail. Donc tout ça, ça ne se passe pas dans les lieux éloignés ou insécurisés, mais c'est pour ça, moi, tout étranger qui vient, qui a toutes ces complications, dirigez-vous à l'hôpital.
Merci.
On va vous diagnostiquer et après on va vous orienter. Il y a un service social qui va vous prendre en charge.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci, docteur Dia. On va poursuivre tout à l'heure notre débat sur les conséquences de ce désert médical.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle solution face au désert médical qui prend de l'ampleur en France? C'est notre débat du jour avec trois invités. Médard Koudébi, président de l'ONG française Bénin Diaspora Assistance, qui œuvre dans la prévention des risques et des épidémies. Aïssatou Dia, médecin, praticienne, consultante en service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichard. Et docteur Emmanuel Debost, président du réseau des groupements régionaux d'observation de la grippe, à qui nous donnons la parole. Docteur Debos, alors, quand on vit dans un désert médical et qu'on souffre peut-être de maladies chroniques ou qu'on a besoin de soins palliatifs, finalement, c'est quoi la réponse? Quel est le recours quand on n'a pas de médecin, quand on n'a pas de pharmacie, quand il faut faire des kilomètres pour pouvoir rencontrer médecin ou se procurer de médicaments?
Heureusement, c'est souvent, il faut faire le 15, malheureusement. Mais je pense qu'il faut anticiper ça, s'inscrire dans une maison médicale de proximité. Et puis, je pense que ces maisons médicales de proximité doivent évoluer avec peut-être un médecin qui s'occupera de faire des visites. Aujourd'hui, c'est une difficulté en zone rurale parce qu'il y a des maisons médicales avec des professionnels de santé, mais il n'y a pas toujours de visite. Et puis, je crois, une troisième piste, c'est avoir une vraie collaboration interprofessionnelle. Et par exemple, les infirmières sont tout à fait capables de faire des diagnostics au lieu du malade. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les premières personnes médicales, paramédicales en tout cas, qui font les visites, qui maintiennent les visites. Et je crois que vraiment, il faut une collaboration entre les médecins, au sein d'une maison médicale, les infirmières, voir les sages-femmes quand il s'agit de...
Mais la réalité aussi, docteur Debos, c'est que parfois, quand les difficultés sont nombreuses, les malades peuvent vite se décourager.
Et oui, oui.
Et renoncer aux soins.
C'est le problème effectivement majeur de l'impact sur la santé de cette démographie médicale insuffisante, en tout cas de cette mauvaise répartition des pôles médicaux sur le territoire. Et ça aggrave, on le voit sur les chiffres de santé publique, que des zones territoriales un peu isolées ont une mortalité plus élevée que des zones urbaines plus favorisées. On retrouve ce problème au sein de zones urbaines défavorisées qui, n'ayant pas un accès médical suffisant, ont une morbi-mortalité plus forte. Ça, il faut
parce que les malades peut-être se rendent à l'hôpital lorsqu'il est déjà trop tard, lorsqu'ils sont à un stade très avancé auquel ils ne peuvent plus, patienter.
Oui, oui, tout à fait, mais l'hôpital n'est pas forcément la solution idéale. C'est souvent en dernier recours. La pathologie, la maladie a évolué et ils peuvent arriver trop tard ou la prise en charge sera insuffisante parce qu'il n'y aura pas de suivi sur le terrain chez eux. Effectivement, c'est un problème avec effectivement une augmentation de la morbi-mortalité sur certains territoires où il n'y a pas assez de professionnels de santé, en tout cas où ils sont mal répartis.
Merci. Monsieur Koudébi, la crise sanitaire qui est présente depuis un an n'a-t-elle pas accentué ce phénomène de désert médical? Je veux dire, même s'il y avait des efforts qui étaient faits, aujourd'hui, ces efforts doivent être démultipliés. Et est-ce que la COVID n'impacte pas davantage les réponses qu'on aurait pu donner à cette situation de désert médical?
La COVID a encore aggravé la situation, surtout ceux qui n'ont pas d'ordinateur pour pouvoir faire des consultations, la télémédecine à distance avec leur médecin. C'est là encore, ça a encore aggravé l'absence d'ordinateur dans un certain nombre de familles pauvres. Parce que beaucoup de médecins aujourd'hui, au début des moments, les temps les plus forts de COVID, ils préfèrent faire la télémédecine, la consultation à distance. Et vu que ceux qui n'en ont pas, on les appelle une, deux fois au téléphone, mais ça ne reflète pas et une vraie diagnostic au point où on va pouvoir t'envoyer ton ordonnance par mail, et comme ça se fait pour ceux qui ont au moins leurs ordinateurs et qui ont tous les accessoires. Ce qu'il faut apporter le traitement chez un certain nombre de personnes. La deuxième chose que nous venons de constater encore, cette histoire ayant poussé un certain nombre de traitements a aggravé plusieurs pathologies chez d'autres personnes. Et aujourd'hui, l'aggravation de ces pathologies, même pour pouvoir hospitaliser les gens, les hôpitaux aussi n'ont plus de place. L'exemple, par exemple, une personne qui devait être hospitalisée, le 3 mars passé, à l'hôpital Georges Pompidou, par exemple, à Paris, est arrivée à 16 heures. Il est resté de 16 heures jusqu'à 19 heures dans les couloirs avant que le service et le pôle, le Pouma, par exemple, au 7e étage, où il devait rester,
Ils sont venus lui dire, on n'a pas de place, on n'a que 10 lits. Donc aujourd'hui, 3 ont été dédiés au Covid, il nous reste que 7.
Oui, puisque de plus en plus de malades en Ile-de-France sont même déplacés pour d'autres régions.
On va vous héberger dans un autre service. Et tenez-vous bien, ce patient a fait 3 services en 24 heures. 3 services hébergés dans 3 différents services en 24 heures. Ce qui fait que la situation n'est plus uniquement que le désert médical. Même dans les hôpitaux, le désert médical a aggravé plusieurs pathologies et la prise en charge de ces pathologies aussi, aujourd'hui aussi, pose problème compte tenu de l'indisponibilité de lits dans les hôpitaux.
Est-ce que finalement la COVID peut être une opportunité, une piste de solution? On va amorcer tout à l'heure très rapidement en parlant des réponses. Mais est-ce que peut-être avec cette pandémie qui impose, qui fait vivre une pression sur le système de santé, finalement c'est pas par là que va peut-être passer le salut des régions qui vivent le désert médical?
Oui, si les autorités prennent le problème et à bras le corps, mais si on doit rester que dans les discours et dans des promesses, et sur 5 ans, sur 6 ans, et ce serait uniquement du pipeau, parce que quand j'écoute, par exemple, la fois passée, on dit oui, 19 milliards d'oxygène pour les hôpitaux, mais en combien de temps? En 5 ans. En 5 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui a, par exemple, une inflammation de côlon aggravée ou des tumeurs, qu'on ne peut pas opérer aujourd'hui ou bien un problème de factus aggravé. Et on va attendre 5 ans pour trouver une solution à cette pathologie.
Merci. D'accord. On va recentrer en restant sur le désert médical, évidemment. Docteur Aissatou Dia, je me rappelle hier, on parlait de violence en milieu jeune ici, dans cette même émission. Les intervenants évoquaient le fait qu'il y a cette tendance à apporter une réponse répressive à ce phénomène. Mais si on revient pour ce qui est des déserts médicaux, quelle est la réponse que les autorités ont apporté jusqu'ici et est-ce que ces réponses vont dans le sens d'améliorer la situation? Est-ce que ce sont des mesures appropriées?
Pour les enfants ou pour...
Non, je faisais le parallèle parce que vous avez évoqué le cas aussi des médecins. Je crois que c'est le docteur Debos qui a évoqué le cas des médecins qui évitent de s'installer dans les zones, on va dire, chaudes.
Évidemment, oui, pour déjà l'insécurité. Donc, déjà, ils ont peur de ça. Mais il faut retenir quand même quelque chose. Ces derniers temps, on va dire 2007, il y a eu des pathologies quand même graves qui ont nécessité des hospitalisations au long cours et des suivis au long cours où les patients reviennent tout le temps à l'hôpital. Et donc ces lots de patients-là, déjà si on enlève tout ça, ben, les médecins qui sont en ville quand même, ceux qui sont installés n'ont pas de patients, parce que les patients, ils vont juger qu'ils n'ont pas besoin, puisqu'ils doivent repartir à l'hôpital voir leur médecin qui les suivent à l'hôpital, ils repartent là-bas. Même quand la sécurité sociale a imposé à tout patient avoir son médecin consultant, mais c'est pas le cas. Quand les patients, ils savent que déjà, ils passent déjà combien de fois dans l'année à l'hôpital, ils attendent toujours pour venir à l'hôpital pour signaler.
La question, docteur, était de savoir qu'est-ce que les autorités ont fait jusque-là, parce que cela fait plusieurs années qu'on alerte sur cette crise relative au désert médical, sur cette difficulté de certains habitants dans certaines localités d'avoir accès aux hôpitaux et aux soins de santé. Qu'est-ce qui a changé?
Mais à ma connaissance, tant qu'il y a tout ces... Regardez, il y a une pandémie qui vient de tomber sur le monde entier. Donc, quand il y a des pathologies très lourdes qui sont suivies, qu'on ne peut les suivre qu'en milieu hospitalier, avec une prise en charge lourde médicale, les médecins consultants en ville ne peuvent pas assumer ça. Donc, les gens, quand ils n'ont pas de patients, pourquoi ils vont s'installer pour payer des trucs pour rien? Donc l'État, pour faire ça, je ne sais pas qu'est-ce que l'État doit faire, parce que l'État est aussi désarmé devant les pathologies graves, devant les pathologies lourdes, devant les pandémies.
Merci.
Voilà.
Docteur Debos, vous parliez au début de vos propos de cette situation qui serait aussi liée à la liberté d'installation. Bien évidemment, le secteur, les médecins font partie des professions libérales. Vous parliez aussi de la faible présence des médecins dans des quartiers difficiles et aussi des problèmes de la vieillesse des médecins. L'accès à l'école de médecine aujourd'hui est très, très sélectif. Est-ce qu'on ne va pas arriver à une situation, si cela continue, de recrutement des jeunes de façon complaisante, juste pour éviter ce problème de désert médical?
Bien, non, il y a différentes... Alors, pour revenir à l'intervenant précédent, je pense qu'il y a des mesures qui ont été quand même prises par l'État, qui a financé des maisons médicales pour encourager, favoriser l'installation de jeunes médecins dans des zones rurales isolées. Ce n'est pas évident pour un jeune de s'installer en campagne tout seul.
Parfois aussi avec l'aide des maires hein, qui accordent des facilités et même des primes.
Oui, tout à fait. Et puis, se développent aussi des collaborations interprofessionnelles. Et je pense que le médecin reste le chef d'orchestre de la prise en charge des soins, mais s'appuie sur la collaboration des infirmières, des kinés, des sages-femmes et des pharmaciens, c'est des éléments importants. Pour revenir à votre question précise sur les études médicales évoluent, le mode de sélection change. En ce moment, c'est la première année qu'il y a un plus large accès aux études médicales. Mais malheureusement, il faut 8-9 ans pour fabriquer, si je puis dire, un médecin. Donc le retentissement ne va pas survenir immédiatement. Par contre, il n'est pas du tout question de sous-valoriser.
Mais est-ce que l'urgence ne va pas imposer l'urgence, puisque ce problème des aires médicales devient de plus en plus sérieux, je ne vais pas revenir sur les chiffres. Est-ce que l'urgence, à un moment donné, ne va pas imposer, comme on l'a vu pour la formation des policiers, par exemple, conforme, je ne dirais pas au rabais, puisque... un moment, il y a eu, on a dégraissé les effectifs au niveau des policiers. Après, il y a eu des attentats. On s'est rendu compte que non, il fallait urgemment recruter. On a raccourci les durées de formation et finalement, on sait la polémique qu'il y a concernant la police aujourd'hui. Est-ce que pour le cas du secteur médical, on ne risque pas de se retrouver dans la même situation par manque d'anticipation?
Votre remarque est parfaitement pertinente et il y a eu des projets pour former des professionnels à minima. Mais je crois que ces projets ont été abandonnés, heureusement, parce que je crois qu'il n'est pas question d'avoir des médecins sous-formés. Il y aura un impact sur la population évident et qui irait voir les médecins bien formés et pour qui les médecins sous-formés. Par contre, je crois que la vraie piste, c'est une vraie collaboration, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les professionnels paramédicaux qui, en collaboration avec des médecins, peuvent prendre en charge des pathologies des patients. Mais il n'est pas question, je crois que ça...
Mais l'hôpital est déjà en crise, même avec le Covid, docteur Debos. Avec la Covid, il y a manque déjà du personnel.
Alors, l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu des réformes hospitalières qui ont transformé l'hôpital en une entreprise qui devait faire des bénéfices et en tout cas qui devait équilibrer ses comptes et ne pouvait pas faire face à des afflux, en particulier avec la pandémie. Et on l'a vu avec les services de réa sous-équipés. On peut penser que la crise du Covid va permettre de remettre de l'argent dans les hôpitaux, tant dans le matériel que parmi les soignants. Et les soignants dans les hôpitaux, c'est les médecins, mais ça n'est pas que les médecins.
Merci.
Et les médecins ne peuvent pas travailler sans les infirmières, sans les aides-soignants. Mmh. Et je crois que c'est ces populations qui doivent bénéficier d'un fort coup de pouce.
Aujourd'hui, merci beaucoup.
Les médecins à l'hôpital sont bien payés.
Merci beaucoup, docteur Debos. Restez avec nous, on va parler dans un instant des solutions concrètes à apporter à ce phénomène de désert médical.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dernière partie de votre émission de ce soir consacrée au désert médical en France avec trois invités, Dr Aissatou Oudia, médecin praticienne, consultante en service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, Médard Koudébi, président de l'ONG française Bénin Diaspora Assistance qui œuvre aussi dans la prévention des risques et des épidémies, Dr Emmanuel Debost, président du réseau des groupements régionaux d'observation de la grippe. Nos invités sont tous en ligne de Paris. Et je vais redonner la parole à M. Koudébi. On a énuméré beaucoup de facteurs. On a constaté qu'il y a une conjonction de facteurs qui explique cette situation. Mais si aujourd'hui, M. Koudébi, il fallait vraiment entreprendre des solutions urgentes pour réduire ces inégalités liées à l'accès aux soins, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Peut-être d'abord au niveau des pouvoirs publics, puis peut-être des responsables locaux.
Et la première des choses que nous pouvons proposer tout de suite, c'est l'équitabilité des autorisations d'installation et selon le pourcentage de la population par localité. C'est exemple par exemple, si c'est 1000 habitants par médecin, par exemple, et qu'il y en a déjà 3 médecins dans une zone où il y a 3200 habitants, et on peut leur dire carrément non, et installez-vous dans une autre zone où le besoin se fait plus ressenti. Il va falloir plus d'équitabilité dans les autorisations d'installation et qui sont délivrées.
Par qui là, vous vous adressez aux autorités?
Ça, c'est aux autorités, puisque le problème, on parle des autorités, c'est eux qui donnent les autorisations. Et la deuxième chose aussi, pour encourager les gens à s'installer dans les zones à risque, renforcer la sécurité dans les zones où l'insécurité font fuir les médecins, pour les rassurer, pour qu'ils puissent s'installer plus facilement, comme ils ont l'habitude de le faire pour les sapeurs-pompiers. Quand ils doivent intervenir dans ces zones la nuit, ils sont accompagnés systématiquement de la police. Et la troisième chose que nous pouvons aussi recommander aux élus locaux est de sensibiliser et les plus récalcitrants de leur commune, les enfants les plus agités, et qu'on sort pour ramener la paix, l'apaisement. Une fois qu'il y a la stabilité et la paix, je crois que le médecin n'aura plus peur d'aller s'installer et les motivations qui accompagnent son installation l'encourageraient aussi à s'installer pour le bien-être et des populations, et sa présence pourrait aussi soulager la veuve et l'orphelin à pouvoir vivre dignement et en bonne santé.
Merci beaucoup. Docteur Aissatou Oudia, ces pistes paraissent intéressantes et il y en a d'autres forcément.
Si le plan de sécurité est résolu, je pense qu'après tout est possible. Voilà.
Donc, est-ce que la police n'a pas déjà assez à faire avec, j'ai parlé des quartiers sensibles, les violences en milieu jeune, on sollicite les policiers. Est-ce qu'il n'y a pas déjà assez de travail à faire pour les policiers?
Mais il y a du travail à faire parce qu'eux-mêmes sont aujourd'hui victimes. On tue des policiers aujourd'hui. On frappe des maîtres d'école aujourd'hui. On tue des maîtres d'école aujourd'hui. Donc tout est une question déjà, il faut que non seulement l'État mais aussi les familles qui quand même je sais pas comment s'occuper de ses enfants, leur expliquer quand même que la violence ça sert à rien, justement ça va jouer sur l'école, ça va jouer sur le corps médical parce qu'ils ont peur de venir s'installer, ça va jouer sur beaucoup de choses. Donc, il y a ces deux, et l'État et les familles. Les familles, il faut quand même que les familles aussi se mettent avec l'État pour lutter contre ces violences, pour enlever l'insécurité dans les coins lointains, dans les villes.
Cette insécurité qui fait fuir les médecins. Docteur Debos, certains au niveau de l'AMF, hein, l'Association des maires de France, appelaient à ce qu'on appelle un big bang médical territorial. D'autres souhaitaient aussi qu'on donne plus de compétences aux maires. Est-ce que ça aussi, ce sont des solutions qui peuvent permettre de réduire ces chiffres de désert médical qui prend de l'ampleur?
Alors, si je peux effectivement faire trois remarques, je pense que les collectivités locales doivent s'impliquer plus fortement. Aujourd'hui, les aides à l'installation sont financées par les ARS, pas par les collectivités locales. Et les collectivités locales sont toutes intéressées à avoir une équipe de soignants sur leur territoire s'ils veulent attirer des entreprises pour que ça soit des bassins d'emploi. Je crois que le premier intervenant a parlé de la liberté d'installation. C'est la deuxième piste. Je crois qu'il faut arrêter de, il faut mettre une fin à cette liberté d'installation des professionnels. Il faut que l'installation.
Justement, à ce sujet, il y a un moment, l'Ordre des médecins parlait de mesures coercitives pour lutter contre les déserts médicaux.
Oui, mais les médecins sont très puissants à l'Assemblée nationale et ça a été lettre morte et ça n'a pas abouti, mais la population française est fortement partisane qu'on arrête de cette liberté d'installation qui se fait au détriment de l'accès aux soins.
Et peut-être qu'on passe par ce refus d'autorisation lorsqu'il y a déjà suffisamment de médecins dans une localité comme le sujet M. Koudébi, peut-être ?
Oui,
ça peut être un début ?
Et ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé de médecins libéraux, mais on est libéraux dans notre mode d'exercice, mais on est financé par la collectivité et par la solidarité nationale. Et notre exercice, s'installer là où on veut, ça ne fait pas partie pour moi de la qualité de médecin libéral. On est au service de la collectivité et on doit s'installer là où on a besoin de médecins. Et puis je voulais rappeler un troisième point qui s'appelle la régulation médicale. Et aujourd'hui, sur les territoires où vous n'avez pas de professionnels, vous faites le 15 et vous avez au téléphone, toujours sur l'ensemble du territoire français, un médecin qui va vous donner des conseils. C'est un élément.
Mais qui ne peut pas concrètement vous consulter. Ça ne remplace pas. C'est vrai que c'est un début, mais est-ce que ça peut vraiment remplacer ce contact physique, cette confiance qu'il y a entre le médecin et son patient?
En tout cas, alors évidemment, ça ne remplacera jamais la consultation proprement dite, mais ça permet de faire un dépistage, de faire un débrouillage, et puis éventuellement d'envoyer un moyen pour chercher le patient s'il ne peut pas se déplacer sur un point médical où il aura une consultation en présentiel, bien évidemment.
Merci beaucoup. Docteur Meda Koudébi, vous êtes présent de l'association française Bénin Diaspora Assistance. Peut-être un mot sur la réalité dans votre pays d'origine, le Bénin. Quelle est l'expérience et comment a-t-on résolu ce problème de désert médical ou commencé à résoudre?
Déjà, ce problème existe, cela va déjà. Pour avant de pouvoir résoudre ce problème, il faut déjà qu'il y ait le plateau technique. Malheureusement que le plateau technique n'y est pas. Depuis 1960, c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin que l'État vient officiellement d'acheter un IRM pour tout un pays qui n'est même pas encore en activité. On attend encore la veille des campagnes présidentielles pour l'inaugurer. Voilà la situation. Alors n'en parlons même pas, c'est la catastrophe.
Donc, la situation est beaucoup plus grave, en Afrique.
Mais plus grave en Afrique, je crois que à la fin, je vais vous transférer notre dernier rapport qui date de février 2021 sur la situation socio-sanitaire et économique et la mauvaise gestion de coronavirus sur 28 pays africains.
Merci beaucoup, Médard Koudébi, président de l'ONG française Bénin Diaspora Assistance, qui œuvre également dans la prévention des risques et des épidémies. Vous étiez en ligne de Paris. Merci au docteur Aissatou Dia, médecin praticienne, consultante en service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, ici en France, et au docteur Emmanuel Debost, président du réseau des groupements régionaux d'observation de la grippe. Merci à vous tous, madame et messieurs, d'avoir participé à ce débat. Nous parlions ce soir des réponses à apporter au désert médical qui prend de l'ampleur en France et on en parle depuis des années. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Ning qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission que vous retrouverez bientôt sur notre site internet africaradio.com. Bonsoir.